Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Bonjour.
Bonjour.
Pour ce nouveau numéro de Au fil des pages, je reçois Frédéric Rouvillois, qui vient de publier une histoire de la politesse de 1789 à nos jours, chez Flammarion. Frédéric Rouvillois, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Paris 5. Votre intérêt pour l'histoire des idées vous a entraîné vers le domaine passionnant des utopies. Mais vous êtes aussi un fin connaisseur du siècle des Lumières et de ce qu'il a engendré au lendemain de la chute de Napoléon Ier. Bibliophile, vous collectionnez depuis toujours les traités de savoir-vivre, passion complétée par un penchant pour la culture du goût et de l'art culinaire. Vous publiez aujourd'hui donc cette histoire de la politesse de 1789 à nos jours, ouvrage remarqué par la critique et qui figure dans plusieurs sélections de prix littéraires. Si la France est universellement réputée pour son savoir-vivre depuis le règne de Louis XIV, les règles qui le régissent n'ont cessé d'évoluer au cours des trois derniers siècles. Ainsi, en travaillant sur l'histoire de la politesse, vous éclairez d'une manière originale l'histoire générale de la société française. L'ouvrage se découpe en quatre grandes périodes que je vais donner très brièvement. Une première de 1789 à 1800 qui correspond à la crise anti-royaliste des révolutionnaires. En fait, c'est l'époque où on éradique les attributs royaux sur les monuments et par la même occasion, on fait disparaître la vieille civilité française. C'est ce que j'appelle le triomphe de la goujaterie jacobine. Deuxième partie de 1800 à 1914, c'est l'âge d'or de la politesse bourgeoise avec la réhabilitation des règles de savoir-vivre. Évidemment, c'est une longue période qui n'est pas homogène et nous verrons qu'elle se découpe en plusieurs parties. Troisièmement, le temps des ruptures de 1914 à la Libération, illustré par une simplification des usages. Quatrièmement, enfin, à partir de 1950, s'ouvre, dites-vous, l'ère des incertitudes. Alors, si on comprend aisément que politesse et révolution ne font pas bon ménage, que reprochent les révolutionnaires de 1789 à la politesse ?
Alors, de manière plus générale, effectivement, je crois que votre question est très intéressante. Comme vous le dites, révolution et politesse ne font pas bon ménage, n'ont pas fait bon ménage, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les années dures de notre révolution, spécialement entre 92 et 94-95. Mais il en a été de même dans d'autres révolutions plus récentes, et on retrouve pratiquement les mêmes symptômes, si je puis dire, dans les grands systèmes totalitaires. L'interdiction du vouvoiement, par exemple, qui est l'une des caractéristiques les plus spectaculaires hein, de l'antipolitesse révolutionnaire en France. On la retrouve dans la Russie d'après la révolution d'octobre, et on la retrouve dans l'Italie fasciste de la fin des années 30. Donc il y a vraiment une connexion des différents systèmes révolutionnaires, en fait totalitaires, en ce sens. C'est-à-dire ne supportant pas effectivement ces règles privées, ces règles qui ne relèvent pas de la volonté étatique, et ces règles qui, par ailleurs, ne respectent pas l'utopie, c'est effectivement l'un de mes dadas, l'utopie finalement d'une égalité parfaite entre les hommes, puisque effectivement la politesse est forcément liée à l'idée d'une distinction, d'une différence, éventuellement d'inégalité légitime. Et donc, sous la Révolution française, on a donc une charge extraordinairement violente contre cette ancienne politesse très raffinée et très sophistiquée de l'Ancien Régime, qui se traduit effectivement par l'interdiction de certains mots, le vouvoiement bien sûr, hein, oui. On vient de le dire, monsieur, madame, etc. Ou autre, le mot serviteur par exemple est interdit, hein, de certains gestes, du port de certaines couleurs, de certains habits, de certains usages. Hein, le fait de souhaiter la nouvelle année par exemple à ses parents devient quelque chose de quasiment criminel. Comme les Goncourt le rapportent d'ailleurs dans leurs ouvrages, par exemple. Bref, on a quelque chose, une charge d'une violence inouïe, et une charge qui va complètement modifier le rapport à la politesse des Français. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai choisi 89 comme finalement le point de départ de ma recherche. Non pas qu'il n'y ait pas de politesse, évidemment, ou de savoir-vivre avant, c'est presque le contraire en un sens, mais celui d'après la Révolution et d'après, à partir de 1800 on va dire, est substantiellement différent de celui qui précédait.
Alors pendant cette Révolution, qui est l'instigateur de ces changements?
Il y a plusieurs instigateurs. Il y a plusieurs instigateurs. Il y a un instigateur général, sans visage, si je puis dire, qui est finalement la horde des sans-culottes, qui la commune de Paris en particulier, qui est très hostile à tout cela. Et ce sont les sans-culottes, ce sont les sections de Paris qui vont tenter, par exemple, de faire adopter une loi interdisant et criminalisant le vouvoiement. Une loi qui finalement ne sera pas adoptée, mais à la limite, il n'avait plus besoin d'une loi à ce moment-là, puisque par ailleurs, les Jacobins, qui ont pris le pouvoir dans le courant de l'année, du printemps 93, les Jacobins ont instituer finalement ces règles dans l'administration qu'il gouverne, dans l'État qu'il domine, et naturellement au club des Jacobins. Et par conséquent, il y a une interdiction implicite et en toute hypothèse sanctionnée contre tous ceux qui respecteraient les usages anciens, les usages de l'ancien régime. Alors, par ailleurs, il y a des têtes, des bien connues, qui sont souvent assez curieuses et assez paradoxales. Robespierre, Saint-Just et même Hébert, qui sont les fourriers de la grossièreté la plus diluvienne, Hébert en particulier dans son journal Le Père Duchesne, sont par ailleurs des personnes assez raffinées, soucieuses de la propreté de leur linge, soucieuses de bonnes manières, et même soucieuses de leurs relations mondaines. C'est le cas d'Hébert. Mmh. Donc on a quelque chose d'assez curieux et d'assez paradoxal finalement. L'antipolitesse, l'offensive contre la politesse, est menée par des personnes qui correspondent finalement au canon du savoir-vivre d'Ancien Régime.
Oui, mais est-ce que ça a gagné la province de la même manière?
Ça a gagné la province de la même manière. On a des traces, effectivement, il y a des documents que je cite en particulier dans mon ouvrage, qui montrent que, dans certains lieux en tout cas, effectivement, cette offensive a pu fonctionner. Quant à savoir si, sur l'ensemble du territoire français, cette antipolitesse jacobine a réellement marqué, on peut difficilement l'établir de manière certaine sur un plan historique, bien sûr. On n'a que des traces éparses, si vous voulez. Hein. On n'est pas dans l'ordre de la statistique. Hein. Mais le retournement qui va suivre, finalement, tout d'abord la défaite des enragés et ensuite la chute de Robespierre avec Thermidor et du Comité de salut public, laisse entendre que ça n'a pas été très profond, si vous voulez. Hein. C'est vraiment un feu de paille, si vous voulez. Un feu de paille donc, qui est extrêmement violent, mais très bref et peu profond, finalement, dans les marques qu'il laisse.
Donc, cette antipolitesse révolutionnaire est rejetée à la chute de Robespierre.
Elle est rejetée à la chute de Robespierre. Disons, ce qui est rejeté à la chute de Robespierre, ce sont les sanctions, c'est la criminalisation à outrance, effectivement, de cette politesse d'Ancien Régime. Ceci dit, les règles subsistent et elles vont subsister globalement jusqu'à la fin du Directoire. Ouais. Et jusqu'au moment où Bonaparte, premier consul, décide de renouer finalement avec, sinon la politesse d'Ancien Régime, du moins une forme assez organisée et très codifiée, surtout de savoir-vivre, pour lequel d'ailleurs il va faire appel notamment à Madame de Genlis, qui avait été la préceptrice des enfants du duc d'Orléans, et qui sera d'ailleurs par la suite, dans les années qui suivent, l'une des grandes prêtresses finalement du savoir-vivre retrouvé, renouvelé, qui s'affirme tout d'abord à la cour de Napoléon, puis qui va bien sûr exploser, si j'ose dire, à la Restauration, avec notamment l'apparition d'un genre littéraire très intéressant, auquel j'ai consacré beaucoup des pages de mon livre, le genre des traités de savoir-vivre, qui n'existe pas en fait sous l'Ancien Régime, et qui, après la Révolution française et après la Restauration, va devenir vraiment quelque chose de très important dans le paysage littéraire français.
Mmh. Mais alors, est-ce que c'est vrai que Napoléon codifiait tout, alors est-ce qu'ils apparaissent sous l'Empire ou
c'est
après...
exactement la même chose. Alors, la codification napoléonienne du droit se retrouve exactement dans le début de codification qui se manifeste aussi bien sur un plan public que sur un plan privé à l'époque. Sur un plan public, par exemple, Napoléon fait rédiger un cérémonial du palais impérial qui est, il s'en moquera d'ailleurs lui-même par la suite, encore plus épais et plus dense que le code civil. Et par ailleurs, effectivement, les premiers ouvrages, les premières tentatives de codification d'un savoir-vivre apparaissent sous l'Empire. On estime qu'il y a une cinquantaine d'ouvrages de savoir-vivre qui paraissent à cette époque-là. C'est pas rien tout de même. Hein. Mais la codification, elle va s'accentuer encore par la suite, au point d'ailleurs qu'au XIXe siècle, le terme de code est très souvent utilisé pour intituler ces ouvrages de savoir-vivre. Et on va même encore plus loin, un polygraphe des années 1820 va jusqu'à écrire un ouvrage qu'il intitule « Code civil », au sens de le code de la civilité, de la politesse, qui est assez amusant,
oui,
effectivement.
Tout à fait. À partir de quel moment, parce que nous sommes obligés d'aller un petit peu vite, la France se met-elle à l'heure anglaise, à l'anglomanie ?
Alors, l'heure anglaise, elle est déjà plus ou moins présente, naturellement, à partir de la Restauration. On sait effectivement l'intérêt qu'avait Louis XVIII, par exemple, pour ce pays où il avait longtemps séjourné en exil. Mais elle s'affirme surtout, évidemment, après la Révolution de 1830 et avec l'avènement d'une monarchie et d'un monarque, qui sont des anglomanes avérés.
Oui.
D'autant plus que cette arrivée au pouvoir de Louis-Philippe a pour conséquence, notamment, le retrait de la grande aristocratie du boulevard Saint-Germain, qui cesse de donner le ton, qui boude, dit-on à l'époque, et qui, par conséquent, va laisser la place, dans l'ordre également de ce savoir-vivre et de cette politesse, à d'autres intervenants qui sont c'est les milieux orléanistes, plus bourgeois et plus marqués par l'Angleterre. C'est la flambée, c'est l'époque où vont être créés le Jockey Club, par exemple, c'est l'époque où Balzac se plaint amèrement de ce que on utilise des mots anglais de plus en plus fréquemment dans la conversation française, ou que l'on se subordonne, là encore, aux usages, aux habitudes anglaises. Balzac expliquant que les Anglais s'ennuient tellement qu'ils ne supportent pas que les autres peuples ne s'ennuient pas comme eux, et que par conséquent, c'est pour cette raison qu'ils diffusent leurs propres usages dans les pays voisins.
Alors, vous avez dans cette grande partie de l'ouvrage des sujets fort intéressants. Vous expliquez l'usage des gants et l'usage des chapeaux. Est-ce que vous pouvez donner quelques anecdotes?
Oui, alors, l'usage des gants, c'est très amusant parce qu'on sent bien la densité, finalement, et également la rapidité d'évolution des usages en la matière. Alors, le gant, qui, au XVIIIe siècle, était considéré comme lié, finalement, à la campagne, pratiquement au monde rural ou au monde ou à l'équitation, ou à des choses qui relèvent, effectivement, de l'extérieur, en quelque sorte.
Oui.
Le gant devient, au contraire, l'un des éléments de la bienséance, quasiment obligatoire. J'ai essayé de voir assez précisément à partir de quand on peut dater ça. Je pense que ça apparaît, le gant s'impose vraiment, me semble-t-il, autour des années 1810-1815. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il va envahir littéralement l'existence de toute la bourgeoisie au sens le plus large du terme. Il envahit l'existence dans la mesure où pratiquement du matin au soir, on met des gants pour sortir dès lors qu'on sort de chez soi ou qu'on aille, et dans toutes les occasions, effectivement, les gants sont quasiment obligatoires, avec naturellement des sophistications croissantes au niveau de la couleur du gant, par exemple. Ce sont les fameux gants jaunes, par exemple, qui sont synonymes d'hommes de bon ton dans les années 1840. La coupe du gant est très importante. On se souvient bien sûr de l'histoire de Brummel, par exemple, qui emploie un artisan pour le gant et un spécialement pour le pouce, c'est ça, je crois me rappeler. Bref, et alors, par ailleurs, donc, la présence du gant manifeste un autre élément qui est au fond également assez caractéristique de l'anglomanie qui se saisit de la France à l'époque, c'est une espèce de phobie du corps. C'est le fait qu'on ne touche, on ne doit rien toucher, ouais, finalement, que toute nudité est finalement effroyable et répréhensible. Ce qui se traduit sur un autre plan, par exemple, notamment à table, où on ne touche plus rien à partir des années 1830 environ, alors que ce n'était pas le cas, c'était naturellement, sous l'Ancien Régime, ni même au début de la Restauration.
Oui.
Donc il y a vraiment des courants, finalement, quelque chose qu'on pourrait rapprocher de mode, mais qui sont au fond beaucoup plus profonds, finalement, parce que ce sont des choses qui durent plusieurs décennies, voire un siècle et plus, et auxquelles on peut rattacher donc ces usages du bon ton vestimentaire ou du bon ton à table, par exemple.
Alors nous arrivons évidemment en 1914, qui marque la fin du bon vieux temps, mais vous dites qu'il y avait déjà des signes précurseurs qui annonçaient ce bouleversement. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser ?
Alors, il y a de très nombreux signes qui laissent entendre que les choses commencent à s'effriter un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Il n'est pour s'en convaincre que de lire, par exemple, la Baronne Staff, donc l'auteur du grand manuel de savoir-vivre de la fin du XIXe siècle. La Baronne Staff, qui dans l'avant-propos de son best-seller, qui a été publié à des centaines de milliers d'exemplaires et lu par à peu près tout le monde, explique que les choses changent, les choses évoluent rapidement, qu'on n'est plus au temps de Louis-Philippe, qu'on n'est plus au temps, a fortiori, de l'Ancien Régime et des perruques poudrées, que la vie s'accélère et que, par conséquent, le savoir-vivre, lui aussi, se transforme. Il se transforme, par exemple, dans les directions que la Baronne Staff réprouve, le fait, par exemple, que les femmes se mettent à fumer ou à faire du sport, ou à faire de la bicyclette ou à chasser. Et il se manifeste, d'autre part, sur des plans que la Baronne Staff approuve. L'un des plus étonnants pour nos contemporains, c'est l'abandon d'un usage qui nous paraît vraiment presque insupportable, qui est le fait que les parents ne portent pas le deuil des enfants. Elles ne portaient pas le deuil des enfants dans la mesure où le deuil manifeste une déférence, finalement, un rapport d'inférieur à supérieur, oui. Et que les enfants ne sont pas dans ce rapport-là avec leurs parents, et que par conséquent, les parents ne leur devant pas de déférence, ne doivent pas porter leur deuil. C'est quelque chose qui apparaît de plus en plus intenable à la fin du XIXe siècle, et notamment à la Baronne Staff, et on voit apparaître à ce moment-là une thématique qui va avoir beaucoup de succès par la suite, qui est celle de la politesse du cœur. C'est un thème qu'on trouve déjà sous la plume de la Baronne.
Alors, 1914, donc la guerre, des bouleversements énormes, la société est totalement transformée puisque les femmes travaillent à l'usine, ça change tout. Est-ce que la bienséance disparaît ou se relâche ?
Alors, il faudrait distinguer la guerre elle-même, qui est évidemment un mouvement de bouleversement très considérable. Toutes ces distances qu'impliquait le savoir-vivre bourgeois du XIXe siècle vont subitement éclater. On se retrouve ensemble dans une tranchée, à l'usine, à l'hôpital. Il n'est plus question, évidemment, de faire accompagner les jeunes filles par des duègnes. Il n'est plus question... Enfin, toute une série d'obligations qui allaient de soi auparavant disparaissent corps et bien. Disparition qui est d'ailleurs relatée, là encore, dans les traités de politesse de l'époque. Il y a des traités qui paraissent en 1916, en 1917, qui prennent acte de ces évolutions très très rapides. Alors d'autre part, ce qui change, c'est que les conditions, effectivement, les conditions économiques, culturelles, politiques, morales même de la politesse bourgeoise vont être fortement bouleversées. Et le résultat de tout ça, c'est une politesse qui évolue dans plusieurs directions différentes, si vous voulez. Il y a d'une part la disparition de certains usages, disparition pure et simple.
Oui.
Soit que ces usages n'apparaissent plus tenables, je pense au duel par exemple, qui est encore très très vivace avant 1914 et qui a complètement disparu, ou quasiment complètement disparu après 1918, ou à tout ce qui a trait au chapeau, ou tout ce qui suppose certains accessoires qui ont disparu, comme le chapeau, ou les gants, ou qui vont disparaître peu à peu au cours de l'entre-deux-guerres. Il y a des usages qui se simplifient, ce qui a trait au deuil, par exemple, est un bon exemple, mais également ce qui a trait aux manières de table. Et d'autre part, la politesse tend à se marginaliser, entre guillemets. Et ici, on a en fait quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit, en regardant ce qui se passe en 14 et après, qu'au fond, entre le 19e et le 20e siècle, on a deux mouvements qui sont exactement symétriques. Le 19e siècle, c'est un mouvement de diffusion et de sophistication des règles de politesse. Le 20e siècle, c'est un mouvement, au contraire, de simplification et, en un sens, de marginalisation de ces règles.
Oui.
C'est-à-dire que les règles, au moins dans leur plénitude, ne seront plus pratiquées et révérées que par des groupes sociaux, des milieux, au fond, de plus en plus restreints et des milieux qui se restreignent petit à petit au cours du siècle.
Merci Frédéric Rouvillois. Je rappelle que vous venez de publier une histoire de la politesse en France de 1789 à nos jours aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Thank you.